Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Dans ce cours annuel, Henri Laurence, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, se propose d'analyser les interactions entre l'Empire ottoman et les puissances européennes dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les puissances européennes pèsent sur l'Empire ottoman militairement, nous l'avons vu précédemment au Liban, mais le conflit est beaucoup plus violent dans les provinces ottomanes des Balkans. L'Empire russe se pose en protecteur de tous les Slaves, ce qu'on appelle le panslavisme. Les Français, sous le coup de la défaite de 1870, sont attentistes. Mais les Britanniques sont partagés entre l'indignation devant les crises humanitaires, notamment les massacres perpétrés par l'armée ottomane en Bulgarie, et le souci géostratégique d'endiguer l'expansion russe et de protéger la route impériale des Indes. Hier matin, Henri Laurence a commencé à exposer cette complexe question des Balkans sous domination ottomane, où coexistent quelques 6 millions de chrétiens et 4 millions de musulmans. Les paysans d'Herzégovine sont les premiers à se révolter dès 1874 contre les nouveaux impôts ottomans destinés précisément à soutenir la modernisation de l'Empire. Ils sont suivis par les Bosniaques en 1875, par les Bulgares en avril 1876 et par les Serbes en juin. Aidés par les Russes, les Serbes obtiennent la paix en février 1877. Mais le 24 avril de la même année, les Russes entrent en Roumanie, déclenchant une guerre qui durera un an et dont Henri Laurence nous rappelle ce matin la violence. Écoutez.
Nous allons parler de la guerre de 1867-1878, dont en général on ne vous parle jamais dans les manuels d'histoire. Et pourtant, ça a été, avec la guerre de Crimée, une des guerres les plus violentes du XIXe siècle, qu'on vous explique avoir été une période de longue paix entre 1815 et 1914. Ce qui est quand même discutable dès qu'on quitte l'Europe de l'Ouest. Donc, les Français et les Anglais avaient demandé au Khedive Ismaïl de ne pas intervenir dans la guerre, mais il était quand même obligé de faire un geste de solidarité avec l'Empire ottoman, dont il était encore officiellement parti. Donc, il en profite pour mettre fin à la guerre avec l'Éthiopie et d'envoyer un contingent, mais le contingent égyptien dans les Balkans va se montrer si mauvais que gentiment les Ottomans demanderont qu'ils laissent les armes pour armer les autres et puis qu'ils rentrent chez eux. Donc c'est un peu vexant. Mais il faut dire que le Khedive n'a plus moyen de payer les soldes de son armée depuis plusieurs mois. Ce qui compte, c'est qu'on établit des choses absolument sacrées, comme la liberté de communication pour le canal de Suez. Il est interdit aux Russes de toucher au canal de Suez, territoire ottoman, puisque c'est la voie impériale de communication britannique. Il en est de même pour les détroits et pour le golfe du Persique. Le 30 juin 1877, dans cette peinture d'époque nationaliste, l'armée russe passe le Danube et donc entre en Bulgarie, tandis que le 3 juillet, une nouvelle fois, la flotte britannique s'est remise en position devant les Dardanelles. D'Israël a un moment pensé que les Anglais devraient agir de façon préventive et occuper Gallipoli, mais au dernier moment, il y a renoncé. Mais en tout cas, c'est bien ressenti du côté géopolitique, comme ça, essayer d'arrêter la menace russe. Comme Layard l'explique dans une dépêche du 19 juin 1877, Il est vital pour nos intérêts les plus graves, pour des intérêts dont aucune parole ne saurait suffisamment décrire l'importance, encore moins l'exagérer, que nous soyons prêts à nous interposer pour sauver l'Empire turc d'une dissolution complète. Si nous nous sommes même déterminés à l'abandonner à son sort, nous ne sommes pas déterminés à abandonner au même sort les intérêts les plus élevés de l'Empire britannique. Layard utilise le terme « empire ». Assurément, la politique qui nous a fait soutenir la Turquie pour nos propres fins et notre sécurité, et non par un amour abstrait des Turcs ou de leur religion, politique éprouvée et adoptée par les plus grands hommes d'État, n'est pas de celle que les événements des derniers mois, n'ayant absolument aucune relation avec elle, suffisent pour renverser. Cette politique est basée en partie sur la croyance que la Turquie est une barrière aux desseins ambitieux de Russie en Orient et que le sultan, le chef reconnu de la religion mahométane, est un allié utile sinon nécessaire de l'Angleterre qui a des millions de musulmans parmi ses sujets. Il peut être dépouillé de son empire et réduit à la condition d'un potentat asiatique de cinquième ordre, mais il sera toujours le calife de l'islam et le monde musulman, dans une lutte pour son existence même, peut se retourner contre l'Angleterre comme la principale cause du danger qui le menace. Ça continue donc sur la nécessité de maintenir des bonnes relations avec les musulmans pour le salut de l'Empire et de bloquer la progression russe. Les Russes qui, eux, se proclament comme les libérateurs de leurs frères bulgares, jusque-là soumis au joug turc. Mais parallèlement, il y a un second front qui s'ouvre dans le Caucase, où les armées russes pénètrent en Anatolie orientale, menaçant Erzurum. Les premiers revers ottomans provoquent la colère de l'opinion publique. Le sultan en profite pour procéder à une épuration de la haute hiérarchie militaire, et malgré son manque de culture militaire, supervise les opérations militaires. Le sursaut ottoman se produit en juillet 1877. Dans le Caucase, les Ottomans sont repoussés sur leur position de départ, tandis que le général Osman Pacha inflige une sérieuse défaite aux envahisseurs devant la position de Plevna en Bulgarie. Donc commence la longue bataille de Plevna qui va concentrer tout l'intérêt de l'Europe pendant des mois. La progression russe est arrêtée grâce, dans les Balkans, grâce à la concentration des troupes ottomanes qui bénéficient du réseau de chemin de fer en cours de constitution dans les Balkans. Donc on se bat héroïquement dans Plevna, où l'armée ottomane est encerclée, mais tiens, c'est comme d'habitude, à chaque fois que les Turcs se mettent à s'enfermer dans un coin avec des armes et des tranchées, ils deviennent insupportables. Vous avez battu Bonaparte à Acre en 1799 sur ce même modèle. Il y aura Plevna et après Plevna, les Dardanelles durant la Première Guerre mondiale. Les contingents arabes forment une part importante de l'armée de Plevna. La Bulgarie se trouve dévastée, outre le fait des opérations militaires. Musulmans et chrétiens multiplient les massacres. Russes et bulgares massacrent aussi au passage les juifs locaux, puisque si vous lâchez des Russes tsaristes dans les Balkans, ils font des pogroms, ça fait partie du style russe de l'époque. Abdulhamid tente de rallier à lui le monde musulman, appelant à son secours aussi bien la Perse chiite que l'Afghanistan et les musulmans indiens. Ce qui inquiète Britannique, donc l'appel à la solidarité musulmane, mais ce n'est qu'un soutien moral. Par contre, du côté russe, on commence à s'inquiéter des pertes humaines et le fait que cette guerre n'est pas une simple promenade militaire. Donc c'est sur Plevna, avec Osman Pacha, qui constitue l'essentiel des opérations militaires. Osman Pacha devient un héros de l'islam, On l'appelle Gazi, Gazi en turc, Gazi Osman Pasha, enfin Osman Pasha Gazi, c'est-à-dire le titre qu'apportaient les grands conquérants ottomans du début de l'Empire. C'est à noter que c'est à ce moment-là que se développent, dans cette période, dans cette guerre, les activités du Croissant Rouge ottoman, qui apporte une aide méritoire aux blessés et aux malades, puisque l'Empire ottoman avait été signataire de la Convention de 1864, qui établissait la Croix-Rouge avec obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, avec aussi neutralité et inviolabilité du personnel sanitaire, et le signe distinctif de la Croix-Rouge sur fond blanc. Mais la Croix-Rouge avait posé problème, puisque au départ, la Croix-Rouge est une inversion du drapeau suisse. Et ce symbole avait été ressenti par les musulmans comme trop chrétien, d'où le fait qu'en 1877, les Ottomans avaient adopté le croissant pour remplacer la croix sur leurs insignes sanitaires, ce qui avait provoqué des protestations internationales, les dignitaires de la Croix-Rouge expliquant que l'intérêt de la croix, c'est que c'est le signe le plus simple à faire en cas de catastrophe, de trait, pour signifier que le lieu est inviolable. Mais néanmoins, on avait été obligé d'accepter, et alors la Croix-Rouge a toujours regretté d'avoir été obligé d'accepter en 1877 le croissant rouge, et a lutté pendant des décennies pour empêcher l'adoption d'autres symboles, mais a été obligé, il y a une vingtaine d'années, ou une quinzaine d'années seulement, d'accepter le symbole spécifique pour Israël, le bouclier de David, sous pression américaine. Sur le front du Caucase, l'armée ottomane manque d'argent, de vivres et vit sur le pays. Les irréguliers kurdes qui composent la cavalerie désertent en masse et pillent les villages arméniens. De nombreux massacres de chrétiens arméniens sont commis par les irréguliers. À la mi-octobre 1877, les Russes prennent avantage décisif et l'armée ottomane entame une difficile retraite. On se bat autour d'Erzurum, tandis que les Russes s'emparent de Kars. Au mois de décembre, les opérations militaires s'arrêtent en raison des terribles rigueurs de l'hiver anatolien. Néanmoins, en début janvier 1878, Erzurum se trouve complètement encerclé. Dans les Balkans, au début de en décembre 1977, c'est l'effondrement. Osman Pasha est obligé de se rendre le 10 décembre 1877 devant le grand-duc Nicolas et le prince Charles de Roumanie, ce qui provoque l'insurrection des Serbes, des Monténégrins, ainsi que l'entrée en guerre des Grecs, qui veulent arriver au secours de la victoire. Les Russes lancent une difficile campagne d'hiver. Ça, c'est dans un style russe. Ils sont désagréables pour ça, de lancer des campagnes d'hiver. Chaque fois que les envahisseurs, leur truc, les Russes ont toujours fait des campagnes d'hiver. C'est très désagréable pour les autres. Et donc, les Russes prennent Sofia le 4 janvier 1878. Puis marche sur Andrinople, tandis que l'armée ottomane est en pleine débâcle. Prise d'affolement, les populations musulmanes tentent de fuir, parce que, soyons clairs, les troupes russo-bulgares massacrent tout au passage. La Thrace est remplie de dizaines de milliers de réfugiés qui ensuite affluent vers Constantinople. Bon, les réfugiés sont très grande partie musulmans, mais aussi une petite fraction chrétienne. Alors c'est le seul dessin que j'ai réussi à retrouver sur l'arrivée des réfugiés. À l'époque, on dit émigrés, oui, des réfugiés ottomans dans la capitale, mais il faut considérer que c'est un désastre sanitaire de première grandeur, d'autant plus que le typhus se déclenche dans les populations de réfugiés, faisant donc des milliers et des milliers de victimes. Alors, les Anglais s'interrogent. Les Biscornfield envisagent que les Britanniques s'emparent d'un port en mer Noire, Batum, avec liberté de passage dans les détroits, qui seraient aussi occupés par les Britanniques. Layard a plutôt à l'esprit que l'Angleterre occupe l'émirat de Mohammera sur le Châtel arabe, entre l'actuel Irak et l'Iran, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Raramsha, qui est un territoire autonome que la Perse revendique comme lui appartenant et que la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman n'ont pas reconnu comme étant persane. L'opinion publique britannique devient de plus en plus hostile à la Russie et donc favorable à une intervention militaire. Les atrocités bulgares passent au second plan. Andrinople capitule sans combat le 20 janvier et un armistice est signé le 30 janvier, mais les Russes continuent de progresser vers Constantinople. La flotte anglaise attend des instructions pour entrer en mer de Marmara le 14 février. Mais le sultan ne veut pas que les Anglais entrent dans mer de Marmara, donc passent les Dardanelles, parce que ce serait le signal donné à une occupation russe de la capitale. Il menace pratiquement les Anglais d'un soulèvement de l'ensemble du monde musulman si les Russes entrent à Constantinople. Le 24 février 1878, les Russes s'arrêtent à San Stefano, c'est-à-dire dans la banlieue de Constantinople. Vous voyez, donc c'est le grand-duc Nicolas à San Stefano. Mes braves enfants, la Turquie est battue, la paix est signée, et voici Constantinople. Donc, on est à 10 kilomètres de Constantinople, et puis on négocie au palais impérial entre Abdulhamid et le grand-duc Nicolas. Sur le plan intérieur, le Parlement ottoman, renouvelé en novembre 1877, a critiqué de façon virulente les responsables de la défaite. Et le 14 février 1878, Abdulhamid ordonne la dissolution du Parlement et la suspension de la Constitution. Après tout, il explique que les Russes n'aiment pas traiter avec un État musulman ayant une constitution libérale. On s'entendra mieux entre autocrates. Et à San Stefano, donc, a lieu les pourparlers de paix. Les Ottomans doivent céder sur l'essentiel des exigences russes. Donc, création d'une grande Bulgarie allant jusqu'à la Méditerranée, théoriquement autonome dans l'Empire et occupée temporairement par les armées russes. La Serbie, le Monténégro et la Roumanie devenant des États totalement indépendants avec agrandissement territorial. La Bessarabie passe à la Russie. La Bosnie-Herzégovine deviendrait autonome. Cette grande Bulgarie de San Stefano empêche toute continuité territoriale des possessions ottomanes dans les Balkans, la partie ouest, la Thessalie, l'Épire, l'Albanie étant séparées de la Thrace. Dans le Caucase, la Russie annexe les régions de Kars, Ardahan et Batum. L'article 16 de San Stefano stipule, comme l'évacuation par les troupes russes des territoires qu'elles occupent en Arménie et qui doivent être restitués à la Turquie pourrait donner lieu à des conflits et des complications préjudiciables aux bonnes relations des deux pays, la sublime porte s'engage à réaliser sans plus de retard des améliorations et les réformes exigées par les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Kurdes et les Circassiens. Layard voit dans cet article l'établissement d'un droit d'ingérence, right of interference, accordé à la Russie en Turquie d'Asie. Ils voudront donc que cette Arménie que les Russes souhaitent constituer jouerait le même rôle que la Grande Bulgarie dans les Balkans, c'est-à-dire en fait une position russe indirecte. Enfin, l'Empire ottoman doit aussi s'engager à payer de lourdes indemnités de guerre. Et donc, les préliminaires de paix sont signés à San Stefano le 3 mars 1878. Mais ça, c'est évidemment inacceptable pour la Grande-Bretagne. Le lion va donc s'opposer à l'ours dans une stratégie au bord du gouffre, comme le montre cette caricature. Qui va reculer entre l'ours et le lion? Nous sommes le 13 avril 1878. Et vous voyez, c'est dans cette caricature la version littérale de l'expression « agir au bord du gouffre ». En effet, Saint Stefano remet en cause l'ordre européen, au moins dans les Balkans, puisqu'en fait, par le biais de la Grande Bulgarie, la Russie contrôle l'essentiel des Balkans. Alors, après les atrocités bulgares, on a un sens inverse dans l'opinion publique britannique, un déclenchement d'une vague de patriotisme agressif dirigé contre la Russie. Ce patriotisme agressif est symbolisé par une chanson populaire bien connue qui vient probablement d'une comédie musicale. Donc je vous cite les paroles en français. « Nous ne voulons pas nous battre, mais par Jingo, J-I-N-G-O, si nous y allons, nous avons les bateaux, nous avons les hommes, nous avons l'argent aussi. Nous avons déjà vaincu l'ours, et tant que nous serons de vrais Britanniques, les Russes n'auront pas Constantinople. » C'est ce qu'on avait appelé dans l'histoire le jingoïsme. Alors, jingo serait une corruption de Jésus, pour ne pas jurer. On aurait mis jingo à la place de Jésus. Donc, c'est un terme qui servira à définir le patriotisme agressif en Grande-Bretagne, un peu l'équivalent, mais les Français sont plus défensifs, de ce qu'on appelle en France le chauvinisme, du nom d'un personnage de théâtre qui s'appelait le soldat Chauvin. Donc chauvinisme et jingoïsme, c'est un peu les mêmes mouvements dans cette ère des masses de la fin du XIXe siècle. Le jingoïsme passera ensuite dans l'anglo-américain, dans le contexte des années 1890, avec l'annexion des îles Hawaï, puis la guerre avec l'Espagne, donc toujours pour marquer un patriotisme agressif. L'Autriche-Hongrie voit ses ambitions territoriales frustrées et s'inquiète du triomphe du panslavisme, qui risque de remettre en cause le côté multinational de l'Empire. La France, bien que toujours en retrait, est prête à défendre ses intérêts dans l'Empire ottoman. De plus, l'indemnité de guerre risque de porter atteinte aux paiements de la dette ottomane. Alors, les Français sont les prioritaires sur la dette ottomane, enfin ils ont la plus grande partie de la dette ottomane. Bismarck voit le risque d'une guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Russie qui mettrait à la fin de l'alliance des trois empereurs. Il propose immédiatement la tenue d'un congrès européen, cette fois à Berlin, ce qui marque la place nouvelle de l'Allemagne après la guerre de 1870-1871. Il se pose en honnête courtier, c'est-à-dire en personne désintéressée, bien que son célèbre banquier, Bleichroder, lui ait fait remarquer qu'une telle chose n'existait pas en finance. Alors, je signale que l'expression « honest broker » a été reprise par les Américains pour définir leur rôle dans le processus de paix israélo-arabe, l'origine est en Berlin 1878. En France, donc, les partisans de la revanche sont hostiles à la participation à la conférence de Berlin parce que eux, ils veulent l'alliance russe. Nous sommes maintenant dans la période qu'on appellerait aujourd'hui de cohabitation entre le président de la République, le maréchal de MacMahon, et les républicains qui ont remporté les élections après la crise dite du 16 mai. Les autres, donc, veulent la réintégration de la France dans le concert européen suivant son rang, et c'est eux qui l'emportent. La France ira donc à Berlin, les mains libres, c'est-à-dire sans engagement préalable. Mais elle a déjà imposé qu'on ne traitera que du versant russo-turc, c'est-à-dire qu'on ne parlera ni de la Syrie, ni de l'Égypte. De mars à mai 1878, menaces de guerre et tractations diplomatiques occupent la scène. Finalement, on convient que le Congrès a pour objet la libre discussion de la totalité du contenu du traité de San Stefano. À Istanbul, la situation est très troublée. Des dizaines de milliers de réfugiés ont été accueillis d'urgence. Il y a le typhus, le mécontentement populaire. Et quand, c'est-à-dire qu'on ramasse tous les jours des centaines de cadavres, hein, faut être clair. On accuse le sultan d'être responsable de la catastrophe. Il n'est jamais allé se battre à prendre la tête de ses armées comme les premiers sultans ottomans. Le même Abdulhamid, lui, s'enferme dans son palais de Yıldız, de l'Étoile, parce qu'il craint une tentative d'assassinat. Des placards ont été affichés appelant un soulèvement contre le sultan qui n'est indigne d'être le calife de l'islam. La diplomatie britannique fait comprendre à Constantinople que la Grande-Bretagne est prête à garantir l'intégrité du territoire asiatique de l'Empire en contrepartie de l'île de Chypre, considérée comme indispensable pour assurer le dispositif militaire contre la Russie. Autrement dit, la Grande-Bretagne fait à l'Empire ottoman une offre que les Ottomans ne peuvent pas refuser, dans tous les sens du terme. C'est l'objet de la convention secrète du 4 juin 1878 que les Ottomans sont obligés de céder après ultimatum britannique. Donc, article 1er, dans le cas où Batoum, Ardahan et Kars ou aucune de ces places seront retenues par la Russie, si aucune tentative serait faite à une époque quelconque par la Russie de s'emparer, d'aucune portion des territoires de Sa Majesté impériale, le sultan en Asie, fixé par le traité définitif de paix, l'Angleterre s'engage à s'unir à Sa Majesté impériale, le sultan, pour la défense des territoires en question par force d'armes. Donc, en cas de nouvelle progression russe, la Grande-Bretagne s'engage à défendre l'Empire ottoman. Et la suite. En revanche, Sa Majesté impériale promet à l'Angleterre d'introduire les réformes nécessaires à être arrêtées plus tard par les deux puissances et entrer à la bonne administration et à la protection des sujets chrétiens et autres de la sublime porte qui se trouvent sur les territoires en question, autrement dit les chrétiens anatoliens. Et afin de mettre l'Angleterre en mesure d'assurer les moyens nécessaires pour l'exécution de son engagement, Sa Majesté impériale consent en outre d'assigner l'île de Chypre pour être occupée et administrée par elle. Donc, l'Angleterre se proclame protectrice des chrétiens anatoliens et de l'Empire ottoman contre la scission temporaire de Chypre. C'est ce que l'Angleterre appelle une aide désintéressée. Et dans ce cadre, l'Angleterre se promet de fournir des conseillers à l'Empire ottoman, y compris pour la gestion des provinces anatoliennes. Donc, les Anglais s'engagent à évacuer Chypre si la Russie abandonne Kars Adan et Batum. Donc, au congrès de Berlin, on discute maintenant entre chefs de gouvernement. Les représentants ottomans sont pratiquement voilà, que comme des observateurs impuissants, en fait. Berlin est dominé par les deux personnalités de Disraeli et de Bismarck. Il est très rapidement entendu que la continuité territoriale de la Turquie d'Europe sera rétablie et qu'il n'y aura donc pas de Grande Bulgarie, mais un État vassal de l'Empire ottoman et une province autonome de Roumélie orientale ayant un gouverneur chrétien. Les autres dispositions territoriales dans les Balkans prennent plus de temps, les uns et les autres devant limiter leurs ambitions par rapport à San Stefano. L'Autriche-Hongrie reçoit le droit d'occuper et d'administrer la Bosnie-Herzégovine sans indication de durée, mais ça reste officiellement un territoire ottoman. La France et la Grande-Bretagne soutiennent les revendications de la Grèce qui n'a pas participé à la guerre afin de contrecarrer la poussée russe et slave. Le traité évoque donc une rectification de frontières devant faire l'objet d'un accord bilatéral entre les Ottomans et la Grèce, ou en cas d'échec, une médiation des puissances. La Russie conserve ses conquêtes en Asie, et on reparle à l'article 61 de la question arménienne. La Sublime Porte s'engage à réaliser sans plus de retard les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux puissances qui en surveilleront l'application. Fin de citation. Les Russes voulaient une espèce de protectorat collectif européen sur l'ensemble des chrétiens de l'Empire ottoman. Les Anglais voulaient la liberté de prosélytisme pour les missionnaires protestants, catholiques aussi, mais c'est-à-dire, quant à la France, elle défend les intérêts des catholiques. Ce qui ressort ensuite dans l'article 62 du traité. La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée, entre guillemets pour spontanée, hein. Dans aucune partie de l'Empire ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques. L'admission aux emplois publics, fonctions, honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries. Tous seront admis sans distinction de religion à témoigner devant les tribunaux. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leur rapport avec les chefs spirituels, et ainsi de suite. Bon. Notons quand même, parce que c'est toujours valable juridiquement, les droits acquis à la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les lieux saints. Donc je vous rappelle que nous sommes protecteurs des lieux saints de Jérusalem, la République, hein, laïque. Donc du 8 au 11 juillet, l'Angleterre prend possession de Chypre. Donc vous voyez là l'Union Jack arborée à Chypre, puisque c'est un dossier qui est en dehors du Congrès. Le traité lui-même est signé le 13 juillet 1878 et immédiatement, le 29 juillet, l'armée autrichienne envahit la Bosnie-Herzégovine en dépit de la résistance des populations. Et puis, finalement, les Austro-Hongrois prennent Sarajevo. Les plus grands vainqueurs de Berlin sont la Grande-Bretagne et l'Autriche-Hongrie qui ont fait d'importantes acquisitions territoriales sans avoir à payer les coûts d'une guerre. La Russie en éprouve une certaine frustration. La France a protesté devant l'occupation de Chypre, mais Lord Salisbury alors secrétaire d'État au Foreign Office, a fait savoir au représentant français, le ministre français des Affaires étrangères, Waddington, que l'Angleterre acceptait que la France ait les mains libres en Tunisie. La formule est célèbre. Prenez Tunis, Carthage ne doit pas rester aux mains des barbares. Évidemment, les Français se font répéter trois fois de suite pour bien marquer que c'est bien un engagement ferme de la part de la Grande-Bretagne. Et on évite de parler de l'Égypte. En fait, le message britannique est simple. La Grande-Bretagne a la primauté d'influence sur l'Asie mineure et la Mésopotamie, une égalité de position avec la France en Égypte et se désintéresse du sort de la Tunisie qui est considérée comme étant naturellement dans la zone d'influence française. La régence constitue donc une sorte de lot de consolation destinée à apaiser le courroux français. Disraeli peut ainsi rentrer à Londres en déclarant qu'il ramène la paix avec l'honneur, peace with honor, formule destinée à rester célèbre et qui sera malheureusement reprise en 1938 par Chamberlain à l'issue de la conférence de Munich, d'où la fameuse contre-attaque de Churchill, où n'apportait ni la paix ni l'honneur. Mais c'est la référence à Berlin dans la phrase de Churchill de 1938. Les pertes ottomanes sont considérables. L'Empire a perdu plus de 200 000 km² et près de la moitié de sa population. La saignée démographique est terrible. Les voyageurs européens évoquent une Anatolie et une Syrie vidées de sa population masculine adulte musulmane. Les voyageurs en Palestine rapportent en 1878 qu'il n'y a plus de mâles musulmans dans les villages. Ils sont morts dans les Balkans. Et il y a beaucoup de, pour me souvenir, enfin, c'est à noter, une partie des troupes arabes de Plevna étaient des gens levés en Palestine dans l'armée ottomane. Le règlement des clauses territoriales va prendre plusieurs années, créant une série de crises internationales successives, en particulier sur l'arbitrage entre la Grèce et l'Empire ottoman. Les nouveaux États balkaniques se sont assurés d'une certaine homogénéité ethnique en éliminant une bonne partie de la population musulmane par le massacre et surtout par l'interdiction du retour des réfugiés. C'est-à-dire que le traité de Berlin prévoit en théorie le retour des réfugiés, mais les États balkaniques s'y opposent de fait et les biens des populations musulmanes sont confisqués. Les pertes humaines se chiffrent par centaines de milliers de morts entre civils et militaires, largement dues aux privations, aux épidémies qui ont touché les populations de réfugiés. Si on prend la population de l'ensemble bulgare créée par le traité de Berlin, la population musulmane serait passée de 1 480 000 personnes à 676 000. Il y aurait eu 289 000 morts et 515 000 réfugiés pour la seule Bulgarie. En Anatolie, les chiffres sont plus imprécis. 110 000 musulmans auraient quitté les régions annexées par la Russie et 100 000 Arméniens seraient partis de l'Anatolie ottomane pour s'installer en Transcaucasie russe, c'est-à-dire l'actuelle République d'Arménie. Il faut noter que le sort des Juifs balkaniques n'a pas été particulièrement enviable, puisque les troupes russes ont commis un grand nombre de pogroms lors de leur progression dans les Balkans. Et les Juifs sont généralement perdants parce que l'édit d'émancipation de 1856, vous vous rappelez, concernait aussi bien les Juifs que les chrétiens, et qu'ils se retrouvent dans des États balkaniques qui, eux, ne reconnaissent pas l'émancipation des Juifs. C'est en particulier le cas des Juifs roumains qui ne peuvent pas accéder à la nationalité roumaine. Alors, une seule exception, c'est la Bulgarie qui s'est montrée beaucoup plus libérale et a intégré les Juifs bulgares dans le nouvel État bulgare en formation. Mais en Serbie et surtout en Roumanie, les Juifs ont énormément perdu au traité de Berlin. C'est pour ça que j'avais écrit jadis dans le tome 1 de la question de Palestine que Berlin était le signal de renversement du libéralisme européen. C'était la pointe ultime du progrès du libéralisme européen et le début de son déclin, puisque l'émancipation des Juifs se bloquait au congrès de Berlin. La transformation de la composition de l'Empire ottoman se voit dans le fait que sa population devrait être maintenant de l'ordre de 35 millions d'habitants, dont 21 millions de musulmans avant le conflit, et qu'après Berlin, il n'y a plus que 17 millions d'habitants, dont 12 500 000 musulmans. Alors, c'est des chiffres discutables, ne serait-ce qu'à cause des mouvements de réfugiés, qui sont absolument considérables, et surtout qui s'échelonnent sur plusieurs années. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les populations balkaniques musulmanes fuyant les nouveaux États s'installent en Anatolie, ce qui modifie la composition ethnique et religieuse de l'Anatolie, et qu'en même temps, les réfugiés musulmans caucasiens sont aussi réinstallés en Anatolie, mais aussi dans les provinces syriennes. Donc vous avez l'arrivée de groupes tcherkesses, circassiens et tchétchènes en Syrie et au-delà de la Syrie, dans la Syrie d'actuelle, mais aussi dans la Palestine et dans la Jordanie actuelle, vous avez l'installation de ce qu'on appelle les Mouhajirs, les réfugiés musulmans, en particulier des Caucasiens, dans les provinces syriennes. Ce qui va poser pour l'Anatolie la terrible question de l'article 61 du traité de Berlin, qui évoquait la mise en place de réformes immédiates dans les provinces habitées par les Arméniens, mais dont n'y finissait ni les moyens ni les modalités. Or, en fait, pour que l'Empire ottoman puisse réformer les provinces anatoliennes, il faudrait qu'il puisse se recentraliser encore plus. Or, il n'en a pas les moyens, ses finances sont exsangues, il est en situation de banqueroute financière, il faut payer les indemnités à la Russie, et les provinces anatoliennes les plus lointaines sont sous un contrôle assez lâche de la part des autorités du pouvoir central, d'autant plus que, tirant la leçon de la guerre, c'est-à-dire du rôle que jouaient les chemins de fer, les Russes interdisent aux Ottomans de construire des chemins de fer à destination du Caucase. Donc, les provinces de l'Est anatolien ne sont pas accessibles par chemin de fer, ce qui affaiblit le contrôle du pouvoir central sur ces dites provinces. Or, dans ces provinces, la situation est complexe, puisque vous avez une paysannerie arménienne qui se heurte à la montée en puissance des nomades kurdes qui raquettent les paysans arméniens ou, de temps à autre, confisquent leurs terres. Donc, vous avez un classique conflit nomade sédentaire mais qui prend de la puissance à cause de la croissance démographique des différentes populations, dans un contexte où cette opposition nomade sédentaire est aussi une opposition confessionnelle chrétienne-musulmane, et dans lequel les grandes puissances européennes se trouvent impliquées à titres divers. Donc vous avez là, en genèse, ce qui sera la base d'une des grandes tragédies du début du XXe siècle. En effet, pour pouvoir contrôler les provinces anatoliennes, Abdulhamid va s'appuyer sur les Kurdes et les Tcherkesses, les Circassiens, ce qui est une variante de la politique des notables. Il se méfie terriblement des chrétiens qu'il soupçonne être des instruments de la Russie. Et puis, ce qui sera à la base des massacres des années 1890, Abdulhamid l'a déjà dit à l'ailleurs dans 1878, vous n'avez pas réagi quand des dizaines de milliers de musulmans ont été massacrés, comment voulez-vous que je prenne au sérieux vos revendications humanitaires ? Seuls les Anglais veulent intervenir en faveur des Arméniens, mais évidemment, plus les Anglais vont essayer d'intervenir en faveur des Arméniens, plus ils vont attiser la méfiance des autres Européens, qui voient une volonté d'établir une hégémonie britannique sur l'Asie ottomane. Donc, les Britanniques vont envoyer des officiers de carrière dans des positions consulaires en Anatolie pour faire respecter le programme des réformes. Et évidemment, les autres s'y opposent. Du coup, la Russie va appeler à l'aide l'Allemagne pour s'opposer aux manœuvres britanniques en Anatolie. Et Bismarck fait passer le message aux Britanniques et du coup, les Britanniques vont progressivement abandonner leur tentative de réorganiser par des agences consulaires les provinces anatoliennes. Alors, toute la question est de savoir, comme dit Lord Salisbury, le traité de Berlin a-t-il seulement pour but de gagner du temps ? La question de savoir étant de savoir si c'est la révolution en Russie qui précédera ou non la chute de l'Empire ottoman. En fait, on pourra lui répondre, les deux, mon général, durant la Première Guerre mondiale. Mais Salisbury était déjà mort à cette époque. Pour Layard, il faut réformer d'urgence l'Empire pour lui permettre de gagner ce temps précieux. Donc finalement, on fera des demi-mesures en Anatolie qui vont mécontenter tout le monde, attiser les méfiances des différents groupes et obtenir rien de concret, ce qu'on appelle la politique internationale. La guerre russo-turque de 1877-78 est le conflit armé le plus destructeur du 19e siècle européen. On a des pertes humaines de l'ordre du million de morts. Les pertes russes, seulement militaires, s'élèvent à 120 000 hommes. Les pertes civiles sont considérables et non calculables. En fait, nous avons eu une annonce des guerres du 19e siècle, du 20e siècle, parce qu'elle a été à la fois une guerre de religion, une guerre de nations, nations en formation, mais nations quand même, et une guerre de décolonisation. Au sens, on peut considérer que les Balkans ottomans sont le produit d'une colonisation ottomane commencée au XIVe siècle. Le sentiment humanitaire a joué un rôle dans la mobilisation des opinions publiques européennes, mais de façon assez unilatérale. Les souffrances des populations chrétiennes ont été mises en relief, tandis que la catastrophe vécue par les populations musulmanes et secondairement juive, a été plutôt mise de côté. Il y avait évidemment chez les uns et les autres une nuance d'hypocrisie, puisque quand Français, Britanniques ou Russes appelaient à des réformes ottomanes pour améliorer le sort des populations chrétiennes de l'Empire, il n'était pas question que l'on fasse des réformes dans les empires coloniaux français, britanniques et russes en faveur des populations musulmanes. Hein, il y a bien là un sens de poids, de mesure. Alors, durant la guerre, on a craint dans les provinces syriennes une propagation de la violence confessionnelle. Les chrétiens ont afflué dans la province autonome du Mont-Liban, considérée comme plus sûre. mais rapidement, les esprits ont été tranquillisés. Le gouverneur du Mont-Liban, Rustem Pacha, a fait des démonstrations militaires pour montrer aux Druzes et aux Maronites qu'ils avaient l'intérêt de se tenir tranquilles. Quand la défaite ottomane a été certaine, certains évêques maronites ont lancé une campagne contre Rustem Pacha, mais les consuls de France et de Grande-Bretagne se sont solidarisés avec le gouverneur ottoman et donc ont maintenu l'ordre. Au lendemain du traité de Berlin, le malaise politique est certain. Avec l'annexion de Chypre, la Grande-Bretagne a pris position à proximité de la Syrie et semble avoir mis sous tutelle l'Empire ottoman. La France, maintenant vraiment républicaine, puisque nous entrons à la période dite de la République des Républicains, se méfie des ambitions supposées des Britanniques sur la région et tend à soutenir les revendications de son meilleur client régional, la communauté et l'Église maronite. Donc, plus les républicains laïcs arrivent au pouvoir, plus on renforce la liaison avec les maronites. C'est logique. Il est clair que pour Paris, contrairement à ses engagements, la Grande-Bretagne s'est bien lancée dans une politique de démembrement de l'Empire ottoman. La meilleure preuve, c'est que la première chose qu'ont fait les Britanniques à Chypre est d'abolir les capitulations. Ce qui montre qu'ils ne sont pas là de façon temporaire. De même, les Français se méfient de tous ces programmes de réforme de l'Empire ottoman. Ils y voient une volonté anglaise de s'emparer de la totalité de l'Asie ottomane. À Constantinople, après Berlin, Abdülhamid agit en manœuvrant pour liquider, en les déconsidérant, les défenseurs du libéralisme ottoman. Donc il nomme d'abord... Il nomme à la fin de 1878 comme grand vizir Rehreddin Pacha, donc le Tunisien, et Midat Pacha est rappelé d'exil pour être nommé gouverneur de Syrie. Donc, en quelque sorte, compromettre les libéraux dans la débâcle ottomane. Donc, les réformateurs vont s'épuiser en essayant de remettre de l'ordre dans les finances ottomanes. Ce sera un échec, évidemment. Mais en revanche, ils termineront, comme on l'a déjà dit dans un cours précédent, l'édification du code juridique ottoman avec la publication de la Mejelle de la loi ottomane, enfin la loi islamique réformée de l'Empire. En Syrie, dans le contexte du traité de Berlin, en juillet 1878, deux placards, c'est-à-dire deux affiches, ont été affichées à Damas. Ce serait la première manifestation d'une idéologie politique moderne dans les provinces arabes. Malheureusement, nous ne possédons de ce texte que la traduction française faite au bon soin du consulat de France. L'une des affiches dénonce l'administration du gouverneur ottoman, l'autre la domination ottomane. Donc je vous cite la traduction française, qui c'est la seule dont nous disposons pour cette première série de placards. La prospérité des nations repose sur deux bases fondamentales, une bonne administration et le règne de la justice. Cela étant, les sujets doivent être libres, laborieux et disposés à sacrifier leur intérêt personnel à l'intérêt de l'État. S'ils n'arrivent pas à posséder ces qualités, ils reconnaîtront, mais trop tard, la faute qu'ils auront commise. Ô Syrie, secoue ta paresse et ton indolence. Lève-toi et agis. Il y a déjà trop longtemps que tu gémis sous le joug et l'esclavage de l'injustice. Infortuné, ne vois-tu pas quel peut être ton avenir? Hâte-toi, car tu es le plus fertile, la mieux située, la mieux douée, en un mot, la reine des nations de l'Orient. Jusqu'ici, tu n'as subi que tyrannie et calamité. La mesure est au comble. On t'a ravi tes dieux, on t'a chassé de ta terre, et ainsi de suite. Tes chefs t'ont abusé, ont semé la discorde parmi tes enfants. Ne sais-tu pas, ô Syrie, que la religion n'a rien de commun avec la politique? Ton ennemi le plus acharné n'a d'autre but que de semer la discorde parmi tes fils, chrétiens ou musulmans. Sache que le temps des illusions est passé et qu'il faut compter avec la réalité. Ô Syrie, marche unie dans la voie de la liberté et de l'action. Et ainsi de suite. Et le mot Syrie revient régulièrement dans ce texte. Ce texte du premier placard de Beyrouth avait considéré pendant des décennies, parce que personne ne le lisait, comme étant le premier manifeste du nationalisme arabe, alors que le mot arabe n'apparaît pas dans le texte, mais au contraire le mot Syrie. En fait, ce premier placard est la première manifestation d'un programme politique que l'on énoncera plus tard comme étant celui du syrianisme, d'une identité politique distincte pour la Syrie. L'un des éléments essentiels du syrianisme est constitué par l'opposition entre la misère d'aujourd'hui et la prospérité de la Syrie dans l'Antiquité. C'est un trait continu du discours syrianiste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors, les sources consulaires confirment l'existence d'un puissant mécontentement dans la grande province de Syrie, du Vilayet Souria. Et c'est dans ce contexte que Abdelhamid a décidé d'envoyer Medad Pacha comme gouverneur. C'est un excellent administrateur et il sait tenir tête aux Européens. Mais les Français voient dans Medad un agent de la Grande-Bretagne qui pourrait lui renouveler l'offre faite jadis à Fouad Pacha de constituer une vice-royauté syrienne. Donc, quand en novembre 1878, Medad prend ses fonctions, les Français se méfient absolument de lui. Il devient l'ennemi pour les Français, voire l'homme à battre. Il en est de même pour Abdelhamid, qui a décidé que dès qu'il sera possible, il éliminera, y compris physiquement, Medad, qui est considéré comme son ennemi. Alors, le problème est l'attitude de la Grande-Bretagne. Pour les Français et pour Abdelhamid, Medad ne peut être qu'un agent de la politique britannique. Layard, dans ses mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires sur qui ont été publiés récemment à Istanbul, en anglais, donc des mémoires très complètes sur sa période d'ambassadeur à Constantinople. Donc, selon les mémoires de Layard, Medad n'est pas un agent britannique, mais l'ambassadeur reconnaît que lui, Layard, a joué un rôle important dans la désignation de Medad comme gouverneur de Syrie, dans la mesure où la Grande-Bretagne a besoin de gouverneurs énergiques et bons administrateurs pour réorganiser les provinces orientales de l'Empire.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Henri Laurence, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.